Nous allons prier le Seigneur, mes amis. Je vais vous inviter à ouvrir la petite fenêtre du haut. Parce qu'on a beaucoup de choses à voir en bas, mais il y a aussi le haut. Et nous ne savons pas tout sur le haut, sur Dieu. Nous allons ensemble nous lever et prier pour que la parabole de notre dimanche puisse descendre au fond de nous et nous interroger et nous tirer vers le haut. Nous avons besoin d'aide pour bien voir la vie et l'accueillir, car en te recevant dans notre vie, c'est la vie que nous recevons, la vie qui ne périt pas, la vie qui dure toujours. Te prions pour que cet après-midi, nous soyons bien disponibles, pas trop embarrassés pour écouter les paroles magnifiques de Jésus. Seigneur, bénis les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, leur cœur, leur famille, leur santé. Garde-nous, Seigneur, du mal. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Vous m'entendez bien? Ça va? Personne répond, ça veut dire qu'on ne m'entend pas du tout. Ça va? Ça va. Je reprends donc, comme je vous le disais ce matin et cet après-midi, une prédication qui a été donnée il y a plus de 50 ans par ce pasteur noir américain baptiste, bien connu aujourd'hui, Martin Luther King, qui avait fait un rêve de voir les enfants noirs et les enfants blancs jouer ensemble. Le rêve a fait quelques progrès, c'est pas tout à fait ça encore, mais moi je vais vous parler surtout d'une de ses prédications sur une parabole de Jésus que je retrouve avec vous dans Luc chapitre 12, verset 15. Et j'ai intitulé cette prédication « Vivre dans le bon sens ». Les crabes marchent de travers, vous savez. Il y a des animaux qui sont... C'est moi qui fais ce bruit-là ? Il y a des animaux qui sont capables de voler en marche arrière, comme les libellules, dans tous les sens. Mais nous, on n'a qu'un sens, il ne faut pas se tromper de sens. Alors... Luc 12, verset 15. Puis Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, ce qui veut dire tu n'es pas dans le bon sens, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Quelle leçon pour notre siècle. Les gens d'aujourd'hui, les modernes, comme on dit, diraient que l'histoire de cet homme est magnifique. Il a réussi merveilleusement. Il a réussi à créer, peut-être pas une multinationale, mais une entreprise florissante. Jésus, lui, il dit, c'est un insensé. Ça nous coupe le souffle, c'est un insensé. Mais c'est un riche dont la terre a produit des récoltes si abondantes, cette année il y a beaucoup de récoltes abondantes, qu'il fallait construire des greniers plus grands, des silos. Bref, il fallait, d'un mot très moderne, investir. Et il est arrivé au sommet de sa réussite et il envisage de ne plus travailler. C'est beau, hein ? Il envisage maintenant d'être à la retraite ou de partir en voyage. Tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Mange bien, bois bien, réjouis-toi. C'est parfait. Et là, au milieu de la réussite, au milieu de cette abondante richesse, le Christ lui dit insensé, et cette nuit même, il est mort. Oula, quelle histoire pour un dimanche où le soleil brille. Quelle histoire. Ce monsieur aurait eu aujourd'hui un grand prestige, une belle réputation, ça aurait été un spécialiste de l'économie, il aurait été ministre. Voilà qu'un paysan de Galilée, qui n'a pas fait d'études et qui s'appelle Jésus de Nazareth, l'appelle insensé. Alors pourquoi Jésus a-t-il dit insensé ? Il n'a pas dit insensé parce qu'il était fortuné. Attention, que personne ne me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas un insensé parce qu'il est riche. Le Christ n'a jamais condamné la richesse. Ce qu'il a condamné, c'est le mauvais usage. Comme l'électricité, comme le feu, on peut l'utiliser pour le bien et pour le mal. C'est comme la langue, on s'en sert pour le bien et pour le mal. C'est vrai que Jésus, un jour, il a demandé à un jeune homme riche de vendre toute sa richesse et de donner tout aux pauvres et de le suivre, et de suivre Jésus. Mais ça, pour moi, c'est un remède personnel pour ce riche, pour ce jeune homme riche. C'est un remède personnel, c'est pas un remède pour tout le monde. Dieu ne vous demande pas de vendre votre vélo et votre frigidaire, ni à vous, ni à moi. C'est, chacun a une mission. Donc il n'est pas condamné parce qu'il est riche. Il n'est pas condamné parce que sa richesse, elle est malhonnête. Il a travaillé dur. C'est un homme honnête qui a du savoir-faire. Il a fait des prévisions et des provisions. Mais le problème de ce riche insensé, qui n'est pas dans le bon sens, comme tout le monde, enfin comme Dieu le veut, c'est qu'il a confondu les moyens de vivre avec le but de la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Son argent était devenu sa raison de vivre. Il était amoureux de son argent. Son argent, c'était son Dieu. C'était Mammon. Il est né pour l'argent. Il mourra pour l'argent. Enfin, on n'ira pas loin avec l'argent. Il a confondu donc le moyen avec le but. Bien sûr, nous vivons tous tournés vers l'extérieur. On a besoin de vêtements, peut-être de voitures, d'une maison. Mais ces choses-là ne sont pas le but de la vie. On ne vit pas pour la maison, pour la voiture. Certains n'ont même pas de voiture. Le riche, ici, a oublié de tracer une ligne de démarcation entre les moyens pour vivre et le but de la vie. Il faut connaître le but de la vie, le sens de la vie. Il faut quand même que je vous dise que les choses extérieures, les moyens de vivre, ont de l'importance. Une religion qui ne se sent pas concernée par le bien-être économique, c'est une religion de fous. Parce que quand l'âme est écrasée par un corps torturé dans la maladie, dans le manque d'abri, dans le manque de sécurité, eh bien, ces gens-là, eh bien, ne peuvent pas penser facilement, vivre facilement. Et Jésus nous a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait que nous avons besoin de vêtements, de nourriture, de sécurité économique, de toit, de santé. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc le Christ savait que cet homme avait besoin. Et le Christ savait aussi que cet homme n'est pas comme un chien que l'on nourrit avec un os. Nous sommes plus qu'un estomac, plus qu'un corps. Nous avons une âme. C'est pourquoi Jésus disait « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », c'est-à-dire « Cherchez d'abord votre Sauveur, votre Dieu qui vous sauve ». La tragédie de cet homme, je le répète, il a recherché les moyens et il a laissé le but de la vie s'étouffer dans tout ce qu'il faisait. Il ne pensait plus au réel sens. C'est un insensé. Et je me permets de dire que, je parle comme Martin Luther King, plus cet homme devenait riche matériellement, plus il semble qu'il devenait pauvre intellectuellement et spirituellement. Son esprit se rétrécissait, sa vision n'allait pas loin. Je ne veux pas dire du mal. A-t-il une femme? On ne sait pas. Ce n'est pas écrit dans la parabole. A-t-il une femme? Pardon, aime-t-il sa femme? Respecte-t-il sa femme? Apprécie-t-il ses enfants? Parce qu'il n'en parle pas. On pourrait penser qu'il est un bon célibataire endurci. Apprécie-t-il ses enfants? Est-ce qu'il lit les livres de sa bibliothèque? Quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il est fermé à tout. Il est fermé aux poètes, il est fermé à la Bible, il est fermé aux philosophes. Vous avez entendu ses derniers mots avant de mourir? Derniers mots. Mon âme, mange bien, bois bien, réjouis-toi. Il ne parle pas à sa femme, là. Il ne parle pas à ses enfants, il ne parle pas à son meilleur ami, il se parle à lui-même, comme s'il était seul au monde. Puis il est devenu un peu bizarre parce qu'il confond le corps et l'âme. Quand je mange, ce n'est pas mon âme qui mange, c'est mon corps. Et oui, il dit « mon âme mange bien ». C'est pour ça qu'intellectuellement, il décroche. Mon âme, mange bien, bois bien, réjouis-toi. Il est insensé, deuxièmement, cet homme de la parabole, parce qu'il n'a pas conscience qu'il dépend des autres. Je répète, il n'a pas conscience qu'il dépend des autres. Son petit discours, qu'on a lu ensemble, fait à peu près 60 mots, à peu près. Et dans ces 60 mots, il y a un mot qui revient souvent, 12 fois, « mon »,« moi »,« je ». Incapable de dire « nous »,« notre », »,« mon âme »,« réjouis-toi ». C'est une victime, c'est un malade, une victime de cette maladie de l'égotisme. L'égotisme, c'est celui qui ne parle que de lui, il ne pense qu'à lui. C'est le culte du moi. Il est victime, c'est un malade, il est victime de ce culte du moi. Écoutez bien. Il ne voit pas, il n'a pas vu que la richesse privée que nous avons vient de la richesse publique. Je pose la question, est-ce que c'est lui qui a labouré tout seul ses champs ? Qui a construit tout seul ses greniers? Est-ce que c'est lui qui a semé tout seul dans son champ? Est-ce que c'est lui qui fait tout? Est-ce que c'est lui qui a bâti toute sa maison tout seul? Il ne voit pas qu'il dépend des autres. Il est l'héritier du travail des autres. Il est l'héritier des pensées des autres. Aujourd'hui, on arrive en l'an 2018, on a derrière nous des générations de gens qui ont travaillé, pensé, étudié, créé. On n'arrive pas en disant « c'est moi qui arrive et j'ai tout fait ». Oui, mes amis, en lisant cette histoire, Martin Luther King disait « Nous aussi, nous avons une abondance, comme les greniers de cet homme-là. Nous avons du surplus. Et nous aussi, nous nous demandons « Que ferais-je ? J'ai une bonne récolte, j'ai tellement de choses, que ferais-je pour serrer ma récolte ?» Martin Luther King disait « J'ai vu une réponse à cette question « Que ferais-je de tous mes biens ?» J'ai vu une réponse sur le visage de millions d'hommes et de femmes misérables en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. J'ai vu une réponse. Que ferais-je ? Martin Luther King disait « J'ai vu une réponse à cette question dans la pauvreté effrayante des gens du delta du Mississippi aux États-Unis. » Pauvreté effrayante, on ne la connaît pas. Où pouvons-nous stocker tout ça ? Que ferais-je de ma récolte ? Où la stocker ? Martin Luther King dit, nous pouvons stocker sans aucun frais, c'est gratuit. Nous pouvons stocker dans les estomacs recroquevillés des enfants qui chaque soir se couchent affamés. Après tout, pourquoi pas ? Monsieur le riche, vous auriez pu stocker votre surplus dans bien des estomacs. Et peut-être que notre surplus dans l'Europe pourrait servir à guérir la pauvreté du monde. Cet homme, nous aussi, il faut se mettre à côté de lui, hein. Cet homme, il a oublié que les hommes sur la terre sont interdépendants. On donne, on reçoit des autres. Et chaque jour, nous devons quelque chose à quelqu'un. Je ne parle pas de vos impôts. Mais chaque jour, nous devons quelque chose. Dès le petit déjeuner, Martin Luther King, il disait, nous dépendons de plus de la moitié du monde. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? L'éponge de votre salle de bain, c'est un habitant des îles du Pacifique qui vous l'a fourni. On dépend de lui. Je ne peux pas aller plonger dans la mer chercher une éponge. Votre serviette, eh bien, c'est un Turc qui vous l'a donnée. Et votre café, eh bien, c'est un Sud-Américain. Voilà, on dépend quand même des autres. Et votre cacao qui vous semble si bon, eh bien, c'est un Africain. Et votre thé, c'est un Chinois. Ben, décidément, le monde est chez moi. Martin Luther King ne connaissait pas le portable. Mais si vous avez un portable, c'est un Sud-Coréen sûrement qui l'a fabriqué. Voyez-vous, on dépend des autres. Toute notre vie est en interrelation avec la vie des autres. On ne peut pas dire « moi je fais, moi je me suffis ». On est pris dans un réseau inévitable de réciprocité. On a construit une maison avant vous. On a fait des vêtements pour vous. Et l'homme n'avait pas compris ça. Il croyait qu'il pouvait prospérer dans son petit monde, centré sur sa petite personne, un individualisme extrême. Je répète la parole de Jésus, insensé, fou, t'es un fou, tu te crois seul au monde, c'est toi qui mènes le monde, voilà. On apprend des choses, mais ça nous fait réfléchir sur beaucoup de choses qu'on oublie et... Écoutez la dernière, insensé pourquoi ? Parce qu'il n'a pas conscience de dépendre de Dieu. Oui, il parle, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup de biens en réserve, il parle comme si tout dépendait de lui, il décidait des saisons, il contrôlait la pluie et le vent et le soleil. Il réglait tout, le lever, le coucher du soleil. Il a l'impression de régler le monde. Il s'imagine être le créateur, l'organisateur, alors qu'il n'est qu'une simple créature qui dépend des autres et qu'une goutte d'eau peut tuer. Chez cet homme-là, Dieu était devenu inutile et l'homme était devenu un dieu. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Martin Luther King avait raison. Depuis bien des années, les hommes ont pensé que, depuis la révolution industrielle, que la civilisation allait toute seule. Ça se passe tout seul, comme une loi, comme la loi de la pesanteur. Je lasse mon crayon, il tombe. Et nous, sur Terre, c'est automatique. On va dans le progrès, naturellement. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Naturellement, on y va. Ainsi, les hommes ne se tournent plus vers Dieu. Il n'y a plus besoin de Dieu puisque c'est automatique. Ils ne se tournent plus vers le ciel, mais vers les hommes, vers les autres, vers la terre. Et ils sont convaincus qu'ils vont créer une société nouvelle, qu'ils vont créer un nouveau monde. Mais, attention, le rêve s'est arrêté. Un 8 août 1945, Hiroshima. La science sans l'Esprit de Dieu est une arme mortelle qui conduira le monde au plus grand chaos. Il n'y a pas que moi qui le dis. Aujourd'hui, je ne peux pas ouvrir Internet sans trouver des menaces de guerre ou nucléaire. Enfin, on a peur, on joue avec le feu. Mais sans la conscience de Dieu et la présence de Dieu, nous ferons exploser le monde. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas être ringard que de dire « Je lève mes yeux vers les montagnes, je lève mes yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Il ne faut pas se leurrer, on a besoin de Dieu plus que jamais. L'homme riche ne l'avait pas compris. Et comme beaucoup de gens d'aujourd'hui, il était tellement engagé dans des affaires importantes et dans des banalités insignifiantes qu'il a oublié Dieu. Parce que les petites banalités quotidiennes nous absorbent, comme le sable absorbe l'eau de la mer, sur le rivage. Et les grandes choses de la vie aussi nous absorbent jusqu'à oublier Dieu. Cet homme a élevé très haut ce qui n'était que passager. C'est grenier. Ça va s'arranger. Pas de souci. Il a élevé très haut ce qui n'était que du provisoire, du passager. Ainsi parlait Martin Luther King. Et puis un matin, un soir, je ne sais pas, il a fait l'expérience de tous les hommes, la mort. On a l'impression qu'en disant ces paroles, réjouis-toi, mange, tu as beaucoup de bien pour plusieurs années, il est mort. Mais même s'il était mort comme Mathusalem à 969 ans, ça aurait été aussi dramatique. Et la leçon pour nous aurait été la même. Sans Dieu, on construit sur du sable, on ne peut rien faire. Mais avant de donner son dernier souffle, il avait déjà donné son dernier souffle intérieur. Avant de mourir physiquement, son âme était déjà morte avant. Il y a des morts vivants aujourd'hui. Des gens qui ont rompu toutes les amarres, avec la femme, les enfants, la famille, Dieu, la société, le bien, le mal, bon, ils ont rompu. Cet homme, il est mort quand il a oublié de faire la différence entre les moyens de vivre et le but de la vie. Cet homme, il est mort quand il a oublié de reconnaître qu'il dépend des autres, disait Martin Luther King. Il dépend des autres et il dépend de Dieu. Vous savez à qui me fait penser cet homme riche de la parabole ? À notre monde occidental. Il me fait penser à la société. La société, c'est beaucoup de monde, hein. Mais à la société occidentale où aujourd'hui le critère de la réussite, c'est acheter, vendre, gagner de l'argent. Que ferais-je ? Mes greniers sont pleins, mon compte en banque est plein. Regardez comme il manque quelque chose là. Et pensons à nous, hein. Il faut que ce soit un miroir. On construit des villes de plus en plus hautes, presque 1 kilomètre de haut, des tours infernales. On construit toujours plus, on envahit l'espace et à l'horizontale, là, au ras des pâquerettes, on n'est pas capable de vivre en paix, en harmonie avec ses frères, avec sa femme, avec son mari. On s'élève et là en bas, il n'y a rien. Martin Luther King le disait. Et l'abondance dont il est parlé dans cette histoire nous a apporté ni paix, ni sécurité. Nous sommes toujours de plus en plus fatigués. Pas vous ? Nous sommes de plus en plus anxieux, nerveux, insatisfaits. Martin Luther King disait, nos machines nous pressent d'inventer d'autres machines. Nos machines nous pressent d'inventer d'autres machines et de nous faire travailler toujours plus. C'est heureux, on a fait des robots, mais les robots semblent nous dire, vous allez faire d'autres robots, l'apprenti sorcier. Puis quand on aura fait d'autres, vous en ferez encore d'autres. Puis quand on aura mis tout ça en route, des milliers de robots, vous en ferez encore d'autres. On est étouffé. Frères et sœurs, mes amis, nous avons réduit au minimum ce qui est intérieur à nos vies, la spiritualité. Il y en a qui disent, bon, ça ne sert à rien. Mais on ne vit que de ça, que des paroles de Dieu, que de l'espérance que Jésus donne. On ne vit que de l'amour qu'il nous a manifesté. On ne vit pas de cailloux, de pain, de confiture. On vit de l'amour de Dieu. Nous avons donc réduit au minimum ce qui est à l'intérieur de nos vies et nous avons poussé au maximum ce qui est à l'extérieur. Au maximum. Des engins, des sous-marins atomiques, des avions, des ponts, etc., quand ils tiennent bon. Je vais terminer en vous disant les paroles de Martin Luther King. Notre génération trouvera la paix en réapprenant. C'est dur de réapprendre, d'aller à l'école. Que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Mais la vie d'un homme dépend des trésors de son esprit, c'est-à-dire la paix du Christ, le salut du Christ, l'espérance du Christ. Et sans un retour, il faut des retours, en hébreu c'est conversion, sans un retour au but de la vie, nous détruirons nous-mêmes le monde par un mauvais usage de nos instruments. Mais sans parler du monde, nous détruirons notre santé, nous détruirons notre famille, nous détruirons l'amitié, nous détruirons le respect. On détruira tout. Notre génération ne peut pas éviter la question de Jésus, que sert-il à un homme de gagner l'univers? Je cite Martin Luther King. L'univers extérieur. Et lui, il cite, vous allez voir, il n'est pas de notre temps. C'est pas vieux, mais il n'est plus de notre temps. Il dit, à quoi servirait-il un homme de gagner l'univers extérieur? Exemple, avion, lumière électrique, c'est courant maintenant. Automobile, télévision en couleur, tout ça maintenant c'est commun. Il n'est pas de notre temps, il est mort il y a 50 ans. À quoi servirait-il un homme de gagner tout ce monde s'il perdait sa propre âme, son souffle éternel? Le but de la vie, c'est Jésus. Je cite les apôtres. Soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Je cite les apôtres. Nous avons été créés par le Christ et pour le Christ. Pas pour vivre un peu dans les choses matérielles et périssables, mais pour le Christ. Nous avons été sauvés pour être avec le Christ toujours. Je vous renvoie la question. Pour qui, pourquoi vivez-vous? Comment vivez-vous? Cette parabole vous a-t-elle parlé? Vous a-t-elle rejoint? C'est vrai, parfois on confond un peu, hein, des choses bien qu'on a pu avoir et on vit pour elles. On vit pour elles. Et Dieu nous appelle et on n'entend plus. Venez à moi, quelle belle parole pour notre siècle fatigué et fatigant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Nous prions le Seigneur. Nous prions ensemble en mettant bien cette parole. Que ferai-je de tout cela? J'abattrai mes greniers. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup d'années à vivre. Il n'avait qu'une journée à vivre. Il y a une urgence dans l'Évangile. Non, pas dans l'Évangile seulement, dans la vie. La vie, c'est urgent. Je ne sais pas ce que je ferai demain. Mais aujourd'hui, je dois profiter. Profiter, ça veut dire bien vivre. Bien vivre ma relation avec Dieu. L'essentiel du monde de Dieu, c'est la relation. Dieu est entré en relation avec nous. C'est l'essentiel. Regardez dans une famille, dans un couple, dans une société, ce qu'il faut, c'est la relation. C'est ce qui manque le plus, évidemment. Je prie le Seigneur pour vous, pour moi. Je prie pour que cette histoire nous ramène dans la vérité, au cœur de la vérité. Merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle a pu nous donner à travers Martin Luther King, mais à travers aussi toute l'histoire, afin de nous avertir, afin de nous dire « attention, prends garde à ton chemin, prends garde à ton cœur, ne confonds pas ce que tu fais avec ta vie ». Ne confonds pas les choses avec ta vie. Seigneur, nous avons écouté cette parabole de Jésus, qu'elle soit interprétée, vécue dans notre vie. Nous n'avons qu'un ami, nous n'avons qu'un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, c'est toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Réconcilie-nous avec toi, guéris nos corps malades, guéris nos âmes malades, nos esprits malades, la société malade. Guéris-nous, Seigneur. Amen.